Didier, tu arrives en... Non, tu t'arrives en 97 dans l'affaire ou t'es déjà avant
Écoutez, je vais essayer de vous dire pourquoi la situation elle est paradoxale, en essayant de vous donner quelques éléments. En fait, la situation des fidèles musulmans, elle a un côté paradoxal parce que depuis les années 70, la situation concrète des fidèles n'a cessé de s'améliorer. Et il y a des éléments objectifs de cette amélioration, dès lors qu'on considère que pour organiser un culte, il faut des lieux de culte, c'est d'abord le développement des lieux de culte. Et l'action des pouvoirs publics à partir du Corif, mais surtout à partir de 1997, a permis une accélération très forte de la construction et de l'ouverture des lieux de culte, avec en plus, sous l'impulsion du ministère de l'Intérieur, l'utilisation de mécanismes juridiques qui n'ont pas été faits pour les musulmans, mais qui ont été faits historiquement pour l'Église catholique. C'est ce qu'on appelle les baux emphytéotiques au moment des chantiers du cardinal. La capacité juridique à considérer que les sommes allouées à la construction, à la partie non directement religieuse du culte, ne sont pas des subventions au culte, c'est-à-dire le logement de l'imam, la salle d'ablution, le lieu d'études. On a eu, grâce à cette politique volontariste, avec même des circulaires très précises demandant au préfet de faire des contrôles de légalité dès lors que les municipalités faisaient des préemptions abusives sur des terrains achetés pour de construire des lieux de culte, un développement très important. On peut dire que au début des années 80, on a quelques centaines de lieux de culte. Aujourd'hui, on est aux alentours de 3 000, peut-être un peu plus. Et surtout, c'est inscrit dans le paysage urbain de très grands bâtiments cultuels musulmans qui font cette installation. On peut penser, bien sûr, quand on voit en Seine-Saint-Denis, même sur le périph', ces bâtiments importants qu'on voit de voitures. Mais toutes les capitales, les anciennes capitales régionales, ont aujourd'hui un lieu de culte, grande mosquée, si vous voulez, au point, à un moment donné, qu'on a pu constater qu'on aurait pu aller beaucoup plus vite, hein, qu'en moyenne, une à deux ouvertures par semaine de lieux de culte musulmans depuis la fin des années 90, on aurait pu aller beaucoup plus vite s'il n'y avait pas eu des dissensions internes entre les associations, et surtout si dans cette volonté de bâtimentaire, il n'y avait pas eu une sorte de volonté mimétique, au point qu'on a parlé de la construction de mosquées cathédrales. Hein, on voit bien l'inscription du paysage urbain, c'est la cathédrale pour les catholiques, et donc les musulmans voulaient des grands bâtiments, hein, qu'ils ont eu beaucoup de mal à financer, sachant, on pourrait revenir, que l'essentiel des financements pour la construction du culte vient de l'argent des fidèles. Il y a quelques bâtiments très emblématiques où il y a de l'argent qui peut venir soit d'Algérie, un peu du Maroc, des pays de Golfe qui ont permis de boucler des opérations très massives. Ça, c'est la première chose, et c'est quelque chose d'important parce que on sent bien cette amélioration. On peut même la comparer à la situation d'autres cultes qui se sont développés massivement dans la même période et qui n'ont pas bénéficié de cette aide, les évangéliques. Il n'y a aucune église ou association évangélique dans les lieux d'implantation, de forte implantation, mais partout du reste, mais qui ait pu bénéficier d'un bail emphytéotique. La Seine-Saint-Denis étant l'exemple type, où on a des volontés municipales très fortes en direction du culte musulman, des volontés très hostiles vis-à-vis des évangéliques, alors qu'ils sont massivement présents et que même socialement et sociologiquement, c'est à peu près les choses sont absolument comparables. La deuxième chose qui est très frappante dans l'amélioration de la situation des fidèles du musulman, c'est dès qu'on a un peu parlé, c'est le développement du halal. Au début des années 80, les associations, les fidèles musulmans, les musulmans, les organisations de jeunes étudiants qui vont plus tard constituer la FNMF ou l'UOIF, eh bien, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent les fidèles musulmans, ils n'ont pas accès à du halal. Aujourd'hui, le halal est massivement présent, hein, dans toutes les grandes surfaces. C'est un marché extrêmement fort. À Rungis et dans la viande, enfin. Le tiers de la production ovine part dans le halal. C'est en gros 5 milliards de chiffre d'affaires, avec des enjeux commerciaux et économiques pour la France très importants, puisque c'est en réalité, on est devenu un des premiers opérateurs mondiaux du halal avec des fortes exportations. On peut penser au poulet, par exemple, dans les pays du Golfe ou à d'autres types de viande avec la qualité France qui joue. Mais de manière très concrète, on a cette diffusion du halal avec en plus quelque chose qui s'est inscrit dans le paysage urbain. J'y reviendrai tout à l'heure sur l'inscription de l'islam dans le paysage urbain. C'est le fait que les habitudes alimentaires, en particulier des personnes du Maghreb au moment où on a la poussée du regroupement familial à partir du début 80, c'est qu'on mange de la viande. Hein, et il y a une sorte de croisement. Les populations qui viennent du Maghreb mangent beaucoup de viande. Les populations, disons, natives, hein, ou pris dans l'ambiance générale qui s'accentue sur le fait que la viande, c'est mauvais, hein, spéciste, si j'ose dire, mangent de moins en moins de viande. Comment ça s'est inscrit dans le paysage urbain ? C'est la diffusion de la boucherie halal de proximité, hein, et qui est un des signes les plus forts de l'inscription du culte musulman, d'une certaine manière, dans le paysage urbain. C'est la disparition, disons, du boucher charcutier, pour aller vite, hein, au profit du boucher halal, d'autant plus nécessaire en proximité que les femmes qui arrivent, les familles qui arrivent, ont une mobilité moins grande, hein, que les autres, et donc il y a un besoin de proximité. Mais les grandes surfaces ont compris aussi l'enjeu, avec des labels qui se sont créés. On a maintenant une diffusion, avec même du reste des arrangements avec la foi, si j'ose dire. Le mouton de l'Aïd, normalement, on doit le tuer le matin et pas la veille l'amener à Rungis pour après le diffuser. Hein. C'est ce qui se fait en réalité. Mais ça prouve qu'il y a des formes d'évolution, de discussion. Ce qui nous permet qui nous a permis d'arrêter, du point de vue administratif, les aires de stabulation qu'on a fait pendant plusieurs années pour aider le culte musulman, en Seine-Saint-Denis ou ailleurs, c'est-à-dire la venue dans des aires de stabulation de moutons avec des abattages mobiles, hein, et qui nous ont amenés à être pointés du doigt et à risquer une forte amende de la part de la Commission européenne, puisque on tuait sur place, hein, et on avait droit aux caméras de l'OBA, l'organisation de protection des animaux, plus celle de la délicieuse Brigitte Bardot. Donc ça, c'est le deuxième point, et c'est important en ce qui concerne la vie quotidienne. La troisième chose, c'est l'inscription dans la durée des populations immigrées et le développement des regroupements confessionnels dans les cimetières, qui en particulier concernent les populations d'origine algérienne et qui se sont diffusées au moment où en Algérie on a des problèmes de sécurité, d'ordre public, même si pendant toute la guerre civile, les allers-retours, les gens ont continué à aller en vacances en Algérie, mais il y a quelque chose qui se développe, hein, et puis parce que aussi l'immigration algérienne est sans doute, elle a plus de 100 ans, donc il y a quelque chose, il y a une demande qui se fait. L'administration fait une interprétation extrêmement large de la loi de 1881 et on organise, par le biais de l'idée que le maire a le pouvoir de police de désignation du lieu de sépulture, on organise des regroupements confessionnels dans les cimetières qui ne sont pas exactement des carrés, même si on les appelle des carrés. Le terme de carré vient de cette époque où, dans la mort, on séparait les sépultures avec des murs et des entrées séparées. Hein, et quand il n'existait pas de carrés protestants dans un village catholique, les protestants ne pouvaient pas se faire enterrer et devaient avoir la possibilité ou demander à se faire enterrer ailleurs. Et c'est à partir d'une histoire extrêmement sordide où on laisse un décès protestant dans une cabane de jardinier d'un cimetière, qu'il va y avoir une émotion et qu'on va arriver à la loi qui va mettre un terme au carré. Mais on a diffusé cela. C'est important, même si dans certaines communautés, je pense aux Marocains et aux Turcs, la pression, on pourrait dire culturelle, consulaire et autres, organise des sortes de tontines, hein, pour lesquelles on cotise toute sa vie en France, et qui fait qu'au moment du décès, on vous donne 2 ou 3 billets d'avion sur la Turkish Airlines, plus la gratuité du transport du corps, puisque c'est un système assurantiel, pour pouvoir être enterré en Turquie ou au Maroc, hein, qui sont les deux pourvoyeurs de ce retour des corps. Mais ça, c'est symbolique. Et puis, la dernière chose, Sadek l'a un peu parlé, c'est le développement des aumôneries. On était très en retard en matière d'aumônerie musulmane, d'abord pour des raisons, je dirais, psychologiques, idéologiques. L'aumônerie, c'est un concept chrétien, hein, c'est pas un concept musulman. Du coup, il y avait une nécessité d'une forme d'acculturation qui était en même temps demandée par l'intermédiaire, en réalité, de gens qui étaient extérieurs à la révolution. La sociologie a beaucoup joué avec des études en disant pourquoi les détenus de confession musulmane n'ont pas accès à des aumôniers. C'est important de savoir que c'est la sociologie qui a fait ça, parce que c'est à partir du moment où la sociologie a fait cette pression que l'administration a été obligée d'une certaine manière de compter, entre guillemets, qui était musulman et qui ne l'était pas, parce qu'on ne faisait pas, donc on ne posait pas la question de l'aumônier musulman, puisque de toute façon un prisonnier est un prisonnier ou un détenu est un détenu. Et c'est à partir de Farhad Kocavar, qui a fait cette étude sur les prisons, qu'on a commencé à être légitime à dire qu'il y avait un besoin spécifique culturel musulman dans les lieux de détention. C'est d'abord par là qu'on a commencé, avec un ministère de la justice qui a du mal à comprendre l'enjeu, au sens où la pénitence, si vous voulez, ça a quand même un rapport avec l'Église, et que historiquement, hein, il y a un lien très fort entre l'Église catholique et la pénitence, hein, avec dans certaines prisons le logement du curé quand on était obligé de couper la tête à quelqu'un après une condamnation, et qu'il fallait réveiller la nuit le ministre du culte pour permettre ça. Et on a eu de très longues discussions qui, en mon sens, sont pas abouties, dans des contraintes budgétaires qui sont ce qu'elles sont, pour développer une aumônerie musulmane, ce qui a fini par se faire de manière un peu plus dynamique à partir de 2007, quand on a désigné un aumônier national pénitentiaire musulman, qui est toujours le même, hein, qui est Aslam Alaoui Talebi, hein, et on a réussi à augmenter les budgets pour l'aumônerie musulmane. On était dans une situation, j'allais dire, presque ubuesque. Hein, on avait 10 fois plus d'aumôniers catholiques que d'aumôniers musulmans. Hein, on était à 75 pour 700. Hein, et on avait 30 aumôniers israélites pour 75 aumôniers musulmans, pour une demande culturelle qui, en réalité, n'était pas à la hauteur de ces 30. Mais parce que l'aumônerie, depuis 1905, depuis que c'est inscrit dans la loi qu'on peut financer des aumôneries, hein, l'article 2, c'est l'État ne finance pas, sauf les services d'aumônerie. L'aumônerie est depuis un moyen détourné de financer le culte, hein, parce que les aumôniers, en particulier quand ils sont ministres du culte, quand il y avait beaucoup de ministres du culte, ou beaucoup plus qu'aujourd'hui, touchaient une indemnisation et non pas un salaire, qui se rajoutait à l'indemnisation du curé, hein, sachant que le curé n'est pas en charge de famille, hein, théoriquement. L'indemnisation de l'aumônier n'est pas un salaire. Hein, c'est ce qui continue à être un problème, puisque du coup il est calqué justement sur ce qu'est le profit d'un ministre du culte, c'est-à-dire aux alentours de 900 euros ou 1000 euros, ce qui ne permet pas de faire vivre une famille, et donc il faut quelque chose d'additionnel, hein, ce qui pose problème, mais ça s'est développé. Deuxième aumônerie qu'on a développée. Alors, comment on l'a développé? Et je suis très curieux, je vois bien ce qui est en train de se passer le CFCM. En réalité, quand je dis culturellement, il n'y était pas, c'est quand j'étais chef du bureau central des cultes qu'on a imposé au Conseil français du culte musulman la création d'aumôneries nationales. Parce que, à la fois, il n'y arrivait pas et il y avait des bisbilles. Donc, on est arrivé un jour avec dans une salle à côté, et puis on a fait un partage à peu près assez simple. pour l'armée, il fallait qu'on trouve quelqu'un qui ait un rapport un peu historique, je dirais, dans son histoire avec l'armée. Hein, et donc on a trouvé Abdelkader Arbi qui dirigeait le culte dans une mosquée du côté de Rouen, qui était technicien ouvrier dans une entreprise. Hein, ou ingénieur peut-être, dans une entreprise, mais qui est d'origine algérienne. Hein, voilà, donc l'Algérien, voilà, l'armée.
Hein, vous voyez bien, fils d'un militaire.
Et fils d'un militaire.
De l'armée française.
Fils d'un militaire, algérien, armé, fils d'un militaire. Il était par ailleurs élu socialiste, que ce qu'il ne m'avait pas dit, c'est qu'il était obligé de démissionner. Et je m'étais fait tirer l'oreille par Ali Omari, parce que, bien évidemment, comme Abdelkader ne me l'avait pas dit, mais que les renseignements généraux ont fini par lui dire, ça avait posé quelques problèmes. Mais à l'époque, on avait dit, il n'y en a pas d'autre. Bon. On a donné aux Marocains, mais je reviendrai après sur tous ces problèmes, les prisons. Mais parce que, en même temps, Hassan Alaoui Talibi était déjà aumônier dans une prison et en même temps dans un hôpital. Mais en réalité, il ne pouvait pas vivre de l'aumônerie. Il était en même temps enseignant de mathématiques dans un collège. Hein, et donc, on a essayé de voir avec comment la justice pourrait augmenter la chose. Mais lui-même, en réalité, a fait quelque chose qui était tout à fait à son honneur. Il anticipe ou il démissionne de l'éducation nationale pour être à printemps à l'aumônerie, même s'il perd financièrement, ce qui prouve la qualité et l'abnégation. Et puis, la troisième chose, mais on n'a pas réussi à le faire vraiment, c'est d'améliorer la situation de l'aumônerie hospitalière. Or, on se heurte là à un problème administratif qui est le suivant, c'est que les hôpitaux sont des établissements publics autonomes où les services d'aumônerie sert du point de vue des personnels de variable d'ajustement au directeur qui voit ses crédits réduits, si vous voulez. Et on a là quelque chose qui n'est pas à la hauteur de la demande, à la fois dans les hôpitaux, du fait aussi du vieillissement de la population et de la demande qui existe au moment de la maladie. Et il faudrait rajouter les EHPAD, puisque depuis longtemps, je pense que les EHPAD sont des lieux fermés où on a besoin de services d'aumônerie qu'on n'arrive pas à développer. Ça, c'est un demi-échec. L'échec total, c'est l'aumônerie scolaire. Hein, l'aumônerie scolaire, on n'y arrive pas du tout. D'abord, parce que là, on est dans un milieu farouchement hostile à l'idée même d'aumônerie.
Aumônerie scolaire dans les établissements publics.
Dans les établissements publics.
Il y a des aumôniers catholiques.
Oui, bien sûr. Il y a des aumôniers catholiques, protestants et israélites, en particulier là où il y a des internats. Or, on développe les internats à partir des années 2000, parce qu'on dit les internats, on développe les internats d'excellence, et on n'accompagne pas ce développement des internats d'excellence en direction de jeunes qui sont justement en demande et en recherche spirituelle au moment où on veut essayer de contrebalancer ce qu'on appelle l'imam internet, etc. Mais toutes les discussions qu'on a pu avoir avec l'éducation nationale sur ce sujet se heurtent à une très grande frilosité et des ministres de l'éducation nationale et surtout une très grande hostilité des organisations syndicales qui nous expliquent qu'on réactive, je ne sais pas quoi, mais en réalité on ne réactive que la loi de 1905. Enfin bon, c'est ça la chose. Alors ça, c'est ce qui a marché. Ce qui n'a pas marché et qui est en réalité le problème de l'heure, c'est deux choses. C'est le fait que on n'a pas réussi à faire en sorte que se stabilise une représentation du culte musulman qui puisse à la fois représenter dignement les fidèles qui vont dans les mosquées, parce qu'il y en a, qui puisse être un interlocuteur des pouvoirs publics et qui puisse, par sa parole, rassurer la société française au moment où elle est de plus en plus sous pression. Et en particulier à partir du milieu des années 90, où on a la vague d'attentats qui arrive, de plus en plus sous pression par rapport à ce qui est la dérive de à partir de l'islam, qui est le développement du djihadisme. Alors pourquoi ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on n'arrive pas à faire, c'est le problème, je dirais, de l'intellectualité musulmane. C'est dès qu'on a un peu parlé, c'est le problème de la formation. Alors, sur la première chose, pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on n'y arrive pas, même s'il existe un Conseil français du culte musulman qui a l'avantage, d'une certaine manière, d'exister, qui est une forme de représentation, mais qui n'a pas réussi à trouver sa place et son caractère fédérateur des responsables musulmans associatifs des fidèles musulmans. Ce n'est pas parce que l'islam sunnite, qui est celui qui est pratiqué ici à 95%, n'a pas de clergé. Le protestantisme n'a pas de clergé.
En France, c'est 95% de sunnites.
Oui, on a très peu de chiites et les rares chiites qu'on a sont totalement laïques.
D'accord.
Je ne vais pas dire qu'ils sont vaccinés, mais enfin, en tout cas, ils sont totalement laïcs.
Pardon.
C'est des Iraniens, d'accord, ou des Libanais. Ouais. Ouais. Non, on a quelques chiites, on a quelques mosquées de chiites venant de Madagascar ou de ces zones-là. On en a du côté de la Courneuve, mais ils ont toujours été à l'écart du Conseil français du culte musulman. Et ce n'est pas la même tradition, ce n'est pas la même histoire. Et ils ne posent pas le même type de problème parce que le monde chiite, je parle devant un spécialiste, mais le monde chiite, c'est très différent, tant du point de vue sa structuration, de son rapport au texte et des débats internes. Les débats internes dans le monde chiite sont en réalité particulièrement importants. On le voit quand on regarde attentivement ce qui se passe en Iran. On voit bien qu'il y a des choses qui se font. Donc ici, c'est le monde sunnite, mais pourquoi on n'y arrive pas? C'est pas parce qu'il n'y a pas de clergé, si vous voulez. Si on compare encore avec le protestantisme, les évangéliques qui se sont particulièrement développés ces dernières années, ils ont construit une représentation, consistoire national et évangélique. La fédération protestante arrive à les raccrocher. Il y a quelque chose qui existe en termes de représentation, même si ce sont des églises autocéphales qui on a été confronté à la fois à un héritage historique que Sadek a développé et à une évolution conjoncturelle dont on a sous-estimé l'ampleur et qui nous vient des principaux pays d'immigration, c'est-à-dire l'Algérie, le Maroc, la Turquie, pour aller vite. L'héritage, c'est le fait qu'on n'a pas appliqué la loi de 1905 en Algérie, tu l'as dit, et qu'en plus, dans le legs historique colonial qu'on laisse au FLN, c'est la non-application, et c'est le fait que le FLN n'organise pas la séparation des églises et de l'État, au contraire, Il reprend cette idée du contrôle du culte et du culte musulman en faisant quelque chose qui est intégré à l'État algérien naissant et il va le faire de plus en plus. À partir de 65, on peut dire que ça se développe encore plus et encore plus au niveau des années 80. La non-application de la loi de 1905 en Algérie, ça a été le refus, c'est historiquement le refus d'une expérimentation d'une liberté du culte musulman par rapport à l'appareil d'État. Et ça, c'est un legs négatif qui nous coûte cher et qu'on continue de payer parce qu'on aurait pu faire sans doute une démonstration inverse. Mais la deuxième chose qui nous vient, c'est qu'on a sous-estimé le fait qu'à partir du début des années 80 en particulier, les pays du Maghreb d'abord, et puis depuis la fin des années 90, la fin des années 90, la Turquie, ont de plus en plus utilisé le vecteur religieux comme mode d'influence sur les diasporas. Pour les Algériens, pour compenser les fondements du FLN, on ne peut pas dire les choses autrement, il y a quelque chose qui s'est joué là, et d'autant plus que à partir du début des années 80, on a cette politique de réarabisation, de la fin du français, de l'introduction dans le code civil d'éléments du droit musulman, et on a sous-estimé l'aboutissement de tout ça, et qu'on voit avec le Maroc, c'est le fait que, comme nous, d'une certaine manière, ils ont mis en place les députés ou la représentation des Marocains de l'étranger, c'est-à-dire la question des diasporas est devenue une question électorale interne à ces pays. Hein, et d'une certaine manière, le passage de Hassan II à Mohamed VI, c'est le passage aussi d'un Marzen pour les Marocains, hein, qui fonctionne sur l'autorité terrorisante, hein, je veux dire, faut dire les choses, à quelque chose qui est beaucoup plus mou dans le jeu, avec des partis politiques qui existent, comme le PJD, et où les questions des diasporas sont devenues plus importantes. On voit en ce moment pour les Algériens l'importance de la mobilisation de la diaspora algérienne au moment où il y a une révolution en Algérie. Enfin, il y a quelque chose qui se joue. Et donc, ces enjeux-là, on les a sous-estimés. Je rajoute la Turquie. La Turquie est aujourd'hui en Europe l'État musulman qui organise le plus les diasporas à partir du religieux et avec un systématisme qui est à l'image de ce qu'est la Turquie, c'est-à-dire un État grand, historique, sérieux, etc., et dont la première administration civile est l'administration des cultes, c'est la Diyanet. La Diyanet, c'est à peu près 200 000 fonctionnaires, c'est la première administration civile, avec des stratégies de financement très précises, de développement de salles de prière, etc. En surface, aujourd'hui, les Turcs sont parmi les premiers propriétaires de mosquées, d'écoles à caractère propre, et sont en train de construire à Strasbourg un centre de formation théologique particulièrement important. Et ils l'ont fait en Allemagne, etc. Ils ont une puissance financière, et ils ont en plus, avec l'AKP qui dirige la Turquie avec Erdogan, et quand je vous dis que c'est un élément important, on voit bien que quand il y a un vote en Turquie, il est moins fort pour Erdogan que le vote des diasporas en Europe. C'est 65% ici et c'est 50, quelque chose en Turquie. Et donc c'est grâce à cet encadrement que c'est accentué. Donc ils ont une stratégie très précise et c'est un élément qu'il faut voir dans l'évolution de l'islam en France. Quand on lance le Conseil français du culte musulman, la question c'est de savoir si c'est les Algériens ou les Marocains qui prendront la tête. Aujourd'hui, c'est un Turc qui est à la tête du Conseil français du culte musulman. Il y a 20 ans, c'était proprement impensable. Et dans la discussion qui est actuellement sur la modification des statuts du Conseil français du culte musulman, il y aurait 8 Turcs pour 9 Marocains et 9 Algériens. Dans les 8 Turcs, 4 de la Diyanet, 4 du Miligorush. C'est-à-dire du Miligorush, c'est-à-dire l'organisation qui, pendant très longtemps, a essayé d'avoir une influence sur la diaspora turque, contre le kémalisme au pouvoir en Turquie et qui est particulièrement développé en Allemagne et qui se développe dans les régions de l'Est de la France et qui est une puissance financière très forte, le Miligorush étant historiquement le berceau de l'AKP. C'est-à-dire, le Miligorush, c'est la variante turque des frères musulmans et c'est historiquement le berceau de l'AKP. Alors, on a sous-estimé cette pression des États. On l'a d'autant plus sous-estimé que en fait, à partir des années 80, d'une idée un peu particulière de la laïcité, enfin particulière, sans doute très, très juste, on a développé un système de détachement des imams venant de Turquie, venant d'Algérie, du Maroc, et puis après de Turquie, parce que ça répondait à un besoin. C'est-à-dire, une population augmentait dans les lieux de culte, et il fallait un personnel, je dirais, et que les associations elles-mêmes nous disaient on a besoin de gens. Mais ces facilités d'augmentation du contingent, on les octroie parce que justement on pense qu'il y a un besoin. Bon, on ne voit pas que on ne mesure pas la portée de ce qui se passe en Algérie, c'est-à-dire le fait que les imams qu'on nous envoie ne sont pas forcément les plus modérés, enfin, ou les plus...
Ils maîtrisent parfois même pas le français.
Ils maîtrisent parfois même pas le français. Les Marocains, c'est un peu pareil. Et puis les Turcs, on augmente le contingent turc. Nicolas Sarkozy accepte l'augmentation du contingent turc comme compensation de sa position très dure sur le refus de l'entrée de la Turquie dans l'Europe. Et en compensation, on donne ça à l'AKP, et du reste, ça m'a permis en tant que chef du bureau central des cultes, d'aller discuter avec le directeur de la Dianette, qui ne comprend pas très bien qui je suis. Moi, je suis en réalité un modeste chef de bureau. Lui, c'est le type qui dirige 200 000 personnes. Enfin, voilà, mais donc, dans un décorum, vous imaginez, voilà, je suis considéré comme une personnalité majeure, alors qu'on essaye de faire ça en capitimini, en envoyant le chef du bureau central d'études, mais même pas le directeur. Hein. C'est ça bon. Et donc, on a cette conjonction-là. Et cette conjonction, cette pression, elle se joue sur la question des rapports de pouvoir. Qui dirige hein, tout le problème du Conseil français du culte musulman, c'est le fait que il y a un attachement sentimental, même pour ceux qui sont français, en réalité, au pays d'origine. De la même manière qu'il peut y avoir, pour des enfants de Français qui sont expatriés, un attachement à la France qui se rajoute par cette superposition de plus en plus accentuée entre identité nationale et identité religieuse. Hein, et avec même des stratégies vis-à-vis des harkis qui, en gros, on vous pardonne ce que vous avez fait et vous retournez dans l'algérianité par l'islamité, d'une certaine manière. Hein. C'est un peu comme ça. Quoi. Et le réseau de la Grande Mosquée de Paris, c'est d'abord un réseau en direction des harkis, en fait. Hein. Et donc, c'est comme ça que ça se fait. Donc, on a des affrontements de pouvoir qui sont sans fin et dans lesquels se rajoute un dernier élément, puisque l'UOIF... C'est à la fois l'organisation la moins nationale en termes d'identité par rapport à un pays, mais en même temps celle qui a des liens historiques avec des pays du Golfe, qui est celle qu'on stigmatise facilement comme frère musulman sans savoir exactement ce que ça veut dire. Hein. Frère musulman, c'est comme, si vous voulez, c'est comme communiste européen au début des années 80, entre un Portugais, un Italien et un Français. Voilà, ça n'a pas de consistance autre que le fait qu'à un moment donné, ils ont tous lu les mêmes livres. Mais c'est parce qu'on lit les mêmes livres, qu'on a les mêmes agendas et qu'on a les mêmes choses, on pourra y revenir. Donc, ces enjeux de pouvoir, aucune administration, aucun pouvoir politique n'arrive à les surmonter, au point que le système qu'on invente, qu'on pense pouvoir être un système de représentation de la base des fidèles, ne fonctionne pas, et on est dans des perpétuelles négociations où se mélangent des fédérations, des États. Le système qu'on invente, c'est un système qui est pensé par l'administration comme des calques des élections sénatoriales. Hein, c'est ça qu'on met en place pour les élections du Conseil français du culte musulman. C'est-à-dire... collègue, il sourit, mais c'est-à-dire la mosquée, c'est la collectivité territoriale. En fonction de sa grandeur comme une collectivité territoriale, elle a X grands électeurs, et ces grands électeurs votent hein, et désignent par leur vote les représentants au Sénat, si vous voulez, quel Conseil français du culte musulman. C'est ça qui est calqué, et on pense, et là on sous-estime peut-être aussi le fait que les associations n'ont rien de démocratique, mais on pense que ça va permettre à des fidèles de désigner leurs grands électeurs, etc. C'est pas ce qui se passe, et donc on est dans une situation bloquée, et dans le blocage se rajoute le fait que lors de la première élection, on s'aperçoit de la réalité sociologique, c'est-à-dire les personnes qui sont d'origine algérienne sont beaucoup plus laïcisées que les personnes d'origine marocaine, et donc les Marocains sont les premiers dans les mosquées par rapport aux Algériens. Et là, les Algériens, Boubacar en tête, disent bah là, c'est, les gars, c'est pas possible. Hein. D'une certaine manière, ils nous disent l'Algérie, c'est la France, hein, et si l'islam de France doit exister, il est d'abord algérien. Hein, et Marocain, voilà, c'est comme ça que ça se passe, et c'est comme ça que ça coince, et c'est comme ça qu'on arrive à cet accord. Au forceps de Nicolas Sarkozy qui dit ça va être d'abord Boubacar et puis ça sera de nouveau Boubacar et puis à un moment donné ça sera les Marocains et ça va être de nouveau
la prochaine fois c'est lui
la prochaine fois sera de nouveau Boubacar parce que c'est comme ça et que Boubacar
il est plus jeune que Bouteflika
il est dans le état de Bouteflika
et il va avoir 5 mandats
et par ailleurs contrairement à j'aurais une appréciation plus nuancée de Sadek je pense que il est aussi
Enfin, je veux dire, son père l'a éduqué voilà. Et c'est un excellent joueur d'échecs.
Absolument.
Et donc, joueur d'échecs, ça aide dans ce type de stratégie. Enfin, la dernière chose qui, pour nous, est un problème majeur, c'est l'intellectualité. C'est le fait que nous n'avons pas réussi à mettre en place un lieu d'élaboration théologique. Qui soit en capacité de produire quelque chose qui puisse être alternatif, qui puisse combattre ce qui domine aujourd'hui, malheureusement, dans le monde arabo-musulman, qui est quand même une théologie qui ne pense pas l'altérité, qui ne pense pas le rapport aux autres, hein, et qui s'enferme. Alors, et c'est d'autant plus majeur que la caractéristique actuelle du monde arabo-musulman, sunnite en particulier, mais on pourrait... l'Iran, on peut en discuter, mais c'est la régression de l'ensemble de ces pays du point de vue de l'altérité du panel des différences. Hein. Bon, et avec des pointes terribles, atroces, c'est la disparition programmée des chrétiens d'Orient. Hein. On peut prendre le problème dans tous les sens, mais ils n'y arriveront pas. C'est le problème, on l'a vu, des guerres de religion qui ont des impacts, d'abord entre sunnites et chiites, d'accord, mais aussi sur tous les autres. Mais c'est vrai aussi de l'autre côté de la Méditerranée, où l'évolution du droit... où la crispation des identités et la résurgence des poussées d'un islam à la fois très conservateur et parfois radical pèsent sur la capacité de ceux qui ne sont pas musulmans à vivre. Hein. C'est le ministre de l'Intérieur marocain qui, il y a quelques semaines, dit « la liberté de conscience, on ne peut pas l'appliquer au Maroc parce que c'est un problème de sécurité publique pour les Marocains, etc. Et » tout ça étant plus ou moins accepté, le pape François, il va au Maroc, il réunit 10 000 fidèles dans un culte catholique. La première chose qu'il leur dit, c'est surtout ne faites pas de prosélytisme. Alors, je veux dire, ce qui est particulier dans la question de la gestion du rapport de force. Mais on comprend bien, c'est-à-dire, ne nous battons pas, chacun a son aire géographique d'influence. Hein, celle-là, c'est globalement pas la nôtre, donc allons pas chercher des poux, mais c'est l'impossibilité pour les églises d'acheter des terrains, ou très difficilement, et c'est accentué aujourd'hui en Turquie. L'involution de la Turquie pèse d'autant plus que c'est fait. Donc, cette involution, elle a une dimension idéologique qui est d'autant plus forte que, dans un certain nombre de pays... Les conflictualités démocratiques se sont effondrées ou n'existent peut-être qu'entre religieux. Mais vous prenez un pays comme le Soudan, ça a été à un moment donné une tradition d'un islam éclairé avec des penseurs qui se sont fait pendre sous injonction de l'Arabie Saoudite, du reste. Vous prenez le Yémen, c'était une diversité, une classe moyenne qui existait, des courants laïcs. Bon, l'Indonésie, c'est l'éradication du parti communiste indonésien. Enfin bon, tout ça, ça s'est accompagné d'une diffusion d'un islam modernisé, radicalisé, enfin salafisé, grâce à la pression aussi du marché. Hein. C'est une conjonction entre un conservatisme religieux et la force du marché. C'est ça l'Arabie Saoudite qui a irrigué l'ensemble du monde sunnite et qui aujourd'hui se développe aussi en Afrique, mais qui touche aussi qui a touché aussi jusqu'à nous. Et donc, ça, on n'est pas arrivé à le faire. Et c'est une catastrophe pour nous. Hein, c'est une catastrophe pour nous parce que tout l'enjeu qui était pensé, il était d'arriver à ce qu'il y ait un islam de France ou en France, qu'importe le nom, mais qui puisse... peut-être qu'on avait un modèle qui était une sorte de gallicalisme musulman, hein, un peu comme ça, hein, qui puisse contrer les mauvais courants en dynamique, qui puisse très clairement détacher la question religieuse de la question sociale, parce que un des enjeux de l'amélioration de la situation des fidèles, c'était de découpler la question sociale avec des questions religieuses et de dire, attention, c'est pas parce que vous êtes socialement dans une situation difficile C'est pas parce que vous êtes musulman que vous êtes socialement dans une situation difficile. Et c'était particulièrement important de faire cette démonstration justement pour empêcher le développement de ce qu'on appelle couramment l'islam politique. Et donc, on n'est pas arrivé à faire ça, et c'est ce qui pèse. Alors, la situation, j'en terminerai là, elle est aujourd'hui la suivante. Ce qu'on avait pensé avoir réussi à faire, c'est-à-dire limiter l'éclatement du culte de la sphère musulmane, culte musulman, eh bien, aujourd'hui, on arrive à l'inverse, et on est en train d'avoir, en gros, trois pôles, je dirais. Le premier pôle, c'est à la fois celui de l'islam des pères et de l'islam consulaire, et celui qui est le plus stigmatisé publiquement, c'est le Conseil français du culte musulman. C'est un pôle, il a des mosquées, il a des lieux de culte, il existe. Hein, il existe parce qu'il y a aussi un attachement affectif, social, d'une partie des fidèles vis-à-vis de leur pays d'origine. C'est un premier pôle. On a un deuxième pôle qui est... à mon sens, le plus problématique, qui est celui qui essaie de faire la jonction entre problèmes sociaux et culte musulman. C'est en gros la sphère de Marwan Muhammad, hein, de la consultation des musulmans, qui lui est en réalité le plus frère musulman qui est, d'une certaine manière, c'est-à-dire cette volonté d'utiliser les difficultés sociales pour en faire une arme politique à connotation religieuse. Et là, il polarise autour de lui une jeunesse qui existe, qui a des difficultés sociales indéniablement.
Comment il s'appelle ?
Marwan Muhammad. Et qui, cette jeunesse, et qui se trouve dans un pays qui a comme caractéristique aussi, et qui favorise l'islam radical, qui est celui de l'effondrement des espérances laïques. C'est-à-dire de la structuration liée à les mouvements d'éducation populaire, bien évidemment la Seine-Saint-Denis, le Parti communiste, mais l'effondrement des espérances laïques se matérialisant même très concrètement par la disparition des colonies de vacances, d'une certaine manière. Et donc, il polarise des jeunes qui peuvent avoir fait des études supérieures, enfin qui sont dans une sorte d'organisation... politico-religieuse, le CCIF étant le comité contre l'islamophobie, étant aussi une synthèse de ça. Et on a un troisième pôle qui... alors ce deuxième pôle, il a une force, c'est d'une certaine manière la polarisation de jeunes, d'organes de presse, enfin sur le net, enfin d'une capacité de communication. Il a une faiblesse quand même, c'est le peu de lieux de culte qu'il a. Il n'a pas de lieu de culte. Le troisième pôle, il a la même faiblesse, c'est-à-dire qu'il n'a pas de lieu de culte, ou très peu. Il est constitué de personnes qui sont en réussite sociale, qui ont des parcours réels, et qui, après les dernières vagues d'attentats, se sont dit, mais au fond, est-ce que je peux continuer à être en dehors de la question du culte ? Et c'est Hakim El-Karoui, si vous voulez, qu'il symbolise le plus, c'est-à-dire banquier, qui polarise des gens qui ont comme idée, si vous voulez, d'arriver à dominer l'ensemble par le fait qu'ils sont socialement dominants, pour aller vite. Mais dont la faiblesse est la suivante, c'est que bien évidemment ils peuvent être appuyés par l'appareil d'État pour essayer de mettre en place une taxe du pèlerinage pour financer les activités, mais la faiblesse majeure, c'est quand même l'absence de lieu de culte, c'est-à-dire l'incapacité à trouver la manière de structurer des lieux où ils pourraient s'adresser à la masse des fidèles qui croient. Et il y a une légitimité à croire, et les gens vont dans les mosquées parce qu'ils croient, et là, eux n'arrivent pas. C'est-à-dire, si je voulais comparer à d'autres cultes, on a dans l'Église catholique plusieurs chambres dans la maison du Père, avec des orthodoxes, des libéraux, tout ce que vous voulez. Il fut un temps où il y avait même des catholiques de gauche, enfin maintenant on les cherche. hein, peut-être Jean-Pierre Mignard encore, mais bon, dans le monde du protestantisme, on voit bien qu'il y a une multiplicité et que l'axe global du protestantisme, il est entre le vieux protestantisme, le développement des évangéliques, mais il y a quelque chose, et chacun a ses lieux, si vous voulez, ses organes de presse, ses modes de pensée, etc. Bon, l'orthodoxie, c'est sans doute un peu pareil, le bouddhisme aussi, enfin, le bouddhisme, personne ne sait ce que c'est, à part peut-être Liogier, mais les bouddhistes ont... Ils ont une image plus ou moins sympathique, ils ont beau tuer des gens en Birmanie, tout ça. Ça n'a, leur image n'est jamais dégradée ici. C'est, voilà. Ils sont Jane Birkin. Enfin,
et Georges Clooney.
Mais pour le culte musulman, voilà, ce qu'on pourrait appeler les libéraux, entre guillemets, il n'y a pas de lieu. Hein. J'ai passé le judaïsme, c'est pareil, le judaïsme, on a tout, on a des figures même de rabbins maintenant qui. Chez les musulmans, il n'y a pas ça. Il y a cette absence de lieu, et en particulier parce qu'il faut se les coltiner, les lieux. Hein, et que ces gens qui sont en réussite sociale, bah, se coltiner un lieu de culte, c'est pas simple. Hein, c'est compliqué. Voilà. Donc ils ne le font pas. Voilà. Ils ne le font pas, et d'une certaine manière, ça se voit qu'ils ne le font pas. Et c'est-à-dire que ça, c'est leur faiblesse. C'est-à-dire que le fait de ne pas s'y coltiner donne le sentiment à la masse des fidèles qui est légitime à croire qu'au fond, ils sont méprisés par eux. Voilà. Et c'est ça la difficulté majeure. C'est pour ça que, d'une certaine manière, il y aura une difficulté à aller plus avant. Ils peuvent peut-être bénéficier des dissensions internes à l'islam des pères, c'est-à-dire le fait qu'il y a deux fédérations marocaines et que peut-être que l'une ira avec eux, ou peut-être que l'UIF trouvera un... Enfin bon. Mais c'est ça la difficulté majeure, et c'est en train de créer des dynamiques d'éclatement. Hein. Alors que tout l'enjeu, c'était d'arriver à rassembler un minimum tout ça, on est de nouveau dans une dynamique d'éclatement, et donc on n'arrive pas à régler les problèmes de manière suffisante pour rassurer l'ensemble de la société française. Et c'est ça le vrai échec, hein, c'est que on a une société française qui, on vient de le voir, est quand même globalement tolérante, hein, globalement ouverte, globalement pas raciste, hein, mais qui est angoissée parce qu'il y a cette image du fait qu'à partir de sa foi, on peut aller vers la mort et entraîner les autres. Hein, et que ça pèse dans le débat.
Une réaction massive.